bonjour à tous, c'est le sixième épisode de notre série consacrée au rock, sur le rock au féminin. Alors autour de la table, Christophe et de la Roxette, Véro, salut.
Salut.
Et Timo.
Emilio.
Et oui, the first time I met the blues. Donc on continue notre petite série. Hein. Et aujourd'hui, là c'est la scène punk, la scène contestataire.
Et là, le bruit se crée, toutes les extrêmes peuvent s'exprimer, c'est la liberté totale, toutes les provocations sont là.
On se lâche.
Ouais, on donne des coups de pied dans tous les sens. Et,
des coups de Doc Martens.
On monte en décibels. Ouais. On commence avec Suzanne Janet Ballion. Évidemment, comme ça, ça dit rien à personne. Bon. C'est Siouxsie and the Banshees. C'est pas facile à dire, hein, quand même. Voilà, un groupe qui naît sous l'impulsion de Susie, en fait, pour les intimes. Hein. Susie Sue, plus exactement. Qui naît en Angleterre, en 57. Elle cofonde le groupe avec son pote Steven, qu'elle rencontre à un concert des Roxy Music. Et elle va tout de suite dans le milieu rock, par l'intermédiaire de ses études à la fac d'art, etc. Où elle sympathise avec les Sex Pistols, qui sont eux aussi débutants dans la musique. Et elle commence sérieusement à penser à fonder un groupe, ce qu'elle fait peu de temps après. Donc les Siouxsie and the Banshees naissent. Elle se dirige vraiment vers la musique tout de suite punk rock, voilà, très affirmée. Sur scène, elle est très provocante. On la voit notamment à un festival punk rock de Londres qui s'appelle 100 Club. En français, voilà. Et puis, donc, on la remarque directement. On dit ça de beaucoup d'artistes. Hein. Elle ouvre la voie. Elle est considérée comme ouvrant la voie à une nouvelle musique punk pour les femmes, pour les femmes qui se revendiquent sexuellement complètement libérées, no tabou, comme tu disais, Christophe, tout à l'heure. Et donc, elle continue sa route. Un peu bizarrement, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que c'est quelqu'un qui navigue et qui rencontre beaucoup de musiciens de différents groupes. On a parlé de Roxy Music, elle rencontre aussi des membres de New Order, enfin une personnalité qui est très curieuse, qui s'associe avec quelques musiciens pour créer aussi le deuxième groupe, The Creature. Au début c'est Siouxsie and the Banshees et après c'est Siouxsie and the Creature. Voilà. Donc ensuite on peut peut-être passer directement au titre qu'on va écouter. Hein. Alors on vous a choisi encore Garden, un titre
très joyeux,
très rock de 1978. Voilà le sautillant Hong Kong Garden. Alors, sans transition, on va passer à toi, Melior.
Ouais. Hein, avec le groupe X-Ray Specs. X-Ray comme les rayons X. X-Ray Specs, ça sonne un peu comme irrespect, quoi. Irrespect, non ?
Je crois que c'est un jeu de mots.
Ouais, en fait, là, on peut voir que quand même dans les groupes punk, il y a beaucoup de jeux de mots hein, sur les noms des groupes ou les noms des artistes.
Sur le nom des artistes aussi, c'est pas mal, hein, souvent.
Carrément. Ouais, ouais. Et notamment, on pas en parlera tout à l'heure, mais la chanteuse de X-Ray Specs, c'était Polly Styrene. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait de jeu de mots là non plus. Donc ça, ce groupe-là a eu une forte influence dans le milieu punk, une existence assez courte, 3 ans, de 76 à 79. C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Et en fait, donc il y avait 4 membres dans le groupe, 5, je dis n'importe quoi, pardon. Il y avait 3 hommes et 2 femmes. Et donc les 2 femmes sont un peu c'est un peu l'originalité du groupe, enfin ce qui ressort, Polly Styrene, la chanteuse, et une saxophoniste. Il y avait peu de saxophones dans les groupes
punk.
Punk, exactement, quoi. Donc en fait, dès qu'on écoute un morceau avec du saxo de punk, on se dit bon bah voilà, c'est les
voilà, il y avait eu avant Iggy Pop avec son Funhouse, là où il y avait un petit coup de sax, puis après c'était beaucoup plus confidentiel, il y a eu quelques titres, mais eux ils ont marqué le coup avec leur morceau que tu vas nous passer tout à l'heure.
Ouais, véritable élément distinctif, ce sax et aussi la voix de la chanteuse Polly Styrene, qui avait une voix assez haute, stridente, discordante,
très punk.
Ouais, elle c'était un personnage un peu chelou hein, voilà, comme dans le punk. Elle avait des bagues aux dents là, enfin elle a jamais voulu les ôter, elle faisait tout, elle était habillée un peu comme un sac sur scène. Faut aller voir les vidéos sur internet. Franchement, t'as l'impression qu'elle est allée au Frip à Emmaüs et qu'elle a pas choisi ses fringues et qu'elle s'est vêtue voilà comme ça quoi, c'est sans vraiment y réfléchir. Donc en fait, ce groupe là est anglais, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, et il est jamais sorti d'Angleterre en fait, il a jamais été connu au-delà de l'île.
Mais voilà. Pourtant, ils ont quand même réussi à gagner le respect de moult groupes par la suite et ils ont une bonne réputation dans le milieu punk. On vénère les X, c'est respect. C'est sûr, on les retrouve très régulièrement sur les compilations de cette période.
Moi je découvre ça aussi quoi. Mais en fait je pensais que ça allait être un peu plus désagréable à écouter, mais en fait
comme quoi on a des a priori, hein.
Ouais, carrément, ouais. Donc, ça vaut le coup de découvrir. Bah, on écoute tout de suite un morceau, donc comme ça on pourra se faire une petite idée.
Oh, bien sûr.
Bondage Up Yours, et c'est véritablement devenu un hymne.
Ouais,
punk.
C'est leur tube hein, ça.
C'est ça, ouais, 1977.
Bye.
Throw Bandage Up Yours des X-Ray Specs. C'est un groupe qui s'est quand même pas mal engagé contre le racisme et aussi contre le sexisme. Ils ont fait partie de diverses campagnes dans les années 70 en Angleterre. Voilà, donc ils se joignaient à d'autres groupes pour lutter contre le racisme et le sexisme. Voilà, donc pour conclure avec ce groupe-là et dire un dernier mot sur la chanteuse Police Tyrène, elle n'a pas très très bien terminé, quoi. En fait, elle a un peu vrillé. C'est avéré qu'elle était schizo, même elle a été décelée bipolaire, quoi. Et ensuite, elle est décédée d'un cancer du sein. Voilà, elle avait une cinquantaine d'années.
Ok, on enchaîne avec un autre groupe, The Slit. C'est l'un des premiers groupes de punk rock féminin. Alors comme c'était reconnu comme étant les petites sœurs entre guillemets des Sex Pistols et des Clash. Voilà, c'est un groupe assez important dans l'histoire du rock britannique. Voilà, c'était des Anglais. Ils conservent toujours des fans aujourd'hui. Des gens encore, écoute, la preuve, écoute ça aujourd'hui.
Bien sûr, nous les premiers.
Donc, nous les premiers. Donc le groupe s'est formé au cours de l'été 76 autour d'anciens membres, d'anciens groupes. Enfin, c'était assez tumultueux. Hein. Il y a eu des musiciens qui sont venus, d'autres qui sont partis. Elles étaient quatre. Voilà, les Slits font parler d'elles la première fois en 1977 parce qu'elles sont invitées par les Clash à jouer en première partie de leur tournée White Riot Tour. Donc voilà, la personnalité importante, c'est Harry Up de ce groupe-là. Sa mère, c'est pour ça qu'on disait que c'était un petit peu les petites sœurs des Clash, notamment. Sa mère sortait avec Jimi Hendrix, entre autres. Elle a épousé John Lydon et Harry donc apprend la guitare avec Joe Strummer. Donc leur musique est d'abord tournée vers un punk rock assez amusant et entraînant, on peut le qualifier comme ça, mais néanmoins assez brut. Le groupe fait d'ailleurs l'objet de 3 Peel Sessions, plus tard édités en disque. Ils n'ont toujours pas sorti de disque en fait, c'est ça. Les Slits ensuite amorcent par la suite un tournant. Ils ont plusieurs fois changé de style de musique. Là, ils sont tournés plus tard vers du reggae et du dub, comme ça se faisait à l'époque. Est-ce qu'on peut parler par exemple de UB14 ou des styles, c'était présent en Angleterre dans ces années-là, un peu dub, reggae.
Il y a beaucoup de groupes de punk qui vont vers le dub aussi, qui composent sur les deux angles.
Ouais, et notamment la chanteuse dont je parlais tout à l'heure, Police Tyrène, elle a commencé dans le reggae.
Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours à Blois, sur la scène du Château d'Eau, il y a les Burning Heads qui nous ont fait quelques chansons dub.
Ouais, comme quoi ça paraît pas évident comme mélange, mais ça marchait. Enfin, ils sortent leur premier album, et encore une fois, c'est un mélange de punk, groove et reggae. Donc, succès auprès des critiques, on peut dire ça, mais l'album ne fait pas recette. Ça plaisait peut-être à un public qui n'avait peut-être pas forcément les moyens d'acheter.
Peut-être ça plaisait à un public assez restreint aussi.
Ouais, c'était assez particulier, je pense. Aujourd'hui, le punk est connu, mais peut-être que dans ces années-là, c'était pas non plus l'une des musiques les plus marketing.
Ouais, ça a toujours été un peu confidentiel quand même.
Ouais, il suffit de voir comment les médias réagissaient quand les Sex Pistols, les Clash et autres ont démarré. Hein. Les Sex Pistols, ils se sont fait défoncer. Ils l'ont cherché aussi. Le chanteur qui s'amusait à dire n'importe quoi à la télé.
Ouais, et puis ils avaient l'air de changer quand même pas mal leur sonorité, puisqu'ils changent encore de style de musique. Ils créent un style plus expérimental, avant-gardiste, au début des années 80. Ils ont vraiment changé tout le temps, etc. C'était assez tumultueux, je crois, comme groupe. Donc, ils refont un album pour se séparer en 1982. Donc, il y a eu des reformations en 2006 avec Harry Up, donc la leaduse un peu, qui est repartie. Donc, Harry Up qui décède en 2010, des suites d'une longue maladie. Et donc, on va écouter la chanson Typical Girl, parce que là, on parle de leur engagement féministe. Et c'est en fait Typical Girl, cette chanson qui décrit la place des femmes dans la société, autour de la figure donc, je me répète, de la typical girl, la femme moyenne. Leur idée, c'était d'interpeller l'enfermement des femmes qui ne peuvent pas penser, se rebeller, etc. On écoute ça, typical girl.
Alors, après ce titre des Slits, on va embrayer avec un autre poids lourd de la scène punk. Alors là, on traverse l'Atlantique, puisque nous allons du côté de New York, Boston et le Connecticut. Nous allons faire connaissance, pour, si vous ne les connaissez pas encore, un groupe qui s'appelle les Plasmatiques, qui a été mené d'une main de maître par une dame qui s'appelle Wendy O. Williams, et qui a eu une jeunesse sûrement assez normale, qui a beaucoup joué de clarinette quand elle était jeune, mais à partir de 16 ans, un peu comme Janis Joplin en a ras-le-bol, donc elle prend ses valises et elle part en stop en Floride pour vendre des bikinis. Si on parle de ça, c'est que c'est important, ouais, parce que ça va lui rester. Elle sera très très souvent sur scène, soit à poil, soit en bikini. Ah ouais. Donc, et ce qu'il y a de rigolo, c'est que...
C'est une formation professionnelle ou...
je me devais de parler des bikinis. Équipement important pour aller en piscine. Hein. Ouais. Et donc, ce qui est aussi rigolo, c'est que...
Obligatoire.
Elle a largement influencé un groupe comme les Bikini Kills, dont on a parlé précédemment.
Précédemment.
Une fois qu'elle est arrivée à vendre ses bikinis en Floride, bah en fait, elle a eu envie de voir le monde, elle a traversé l'Atlantique et puis elle s'est baladée en Europe, elle a travaillé dans des restaurants, enfin, puis au bout d'un moment, bah, elle a fait le tour de la question, donc elle est rentrée à New York et elle a rencontré une personne qui allait devenir très importante pour elle, qui s'appelle Rob Swison. Ils vont faire du théâtre ensemble, ils vont aller à Yale, à New Haven. À l'issue de leur parcours universitaire, ils vont monter un groupe qui est donc de notoriété mondiale dans l'univers du punk, qui s'appelle les Plasmatiques. Bon, c'est du punk. Tout à l'heure, vous pourrez écouter un de leurs morceaux. Il n'y a pas de surprise. C'est bien, bien soutenu. Ouais, c'est très, très vivant, hein, évidemment. Mais après, c'est par rapport à tout son comportement sur scène et en dehors de la scène. Wendy O. Williams ne fait jamais dans la démesure. Déjà, direct, elle joue son propre rôle dans un porno. Bon, ah ouais. Elle l'a moyennement assumé après. Elle ne l'a jamais regardé. Mais direct, on va sur ce terrain-là. Et donc, sur scène, elle est très, très connue et reconnue pour donc, sa plastique, puisque très souvent, elle est donc, en bikini, voire en monokini. Elle se balade très souvent avec une tronçonneuse sur scène. Elle tronçonne sa guitare. Donc, c'est un spectacle. Ou alors, elle fait même exploser des voitures de temps en temps. Ah ouais. Bon, elle s'amuse avec des choses un peu spectaculaires.
Et accessoirement, elle chante ou...
Et accessoirement, bien sûr, elle chante. C'est la base du truc. Et,
elle trouve le temps de chanter.
On verra un tout petit peu plus tard qu'elle a même été nommée aux Grammy Awards.
Mmh. Ah ouais, quand même.
En tant
ah
que
ouais.
prestation vocale. Hein. Donc,
ah ouais.
Et ouais, comme ça, on s'y attend pas. Hein.
Non.
Donc, le groupe qui brise aussi beaucoup de tabous, notamment sur le thème du sexe. Elle s'est fait arrêter pour outrance aux bonnes mœurs. Elle s'est pris des PV, elle a été mise en examen, elle a gagné quand même quelques procès et à partir du moment où elle a eu quand même maille à partir avec la justice, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, elle se mettait un petit autocollant sur la pointe des seins pour avoir un peu de dignité et pas de poursuite judiciaire.
Et c'est très américain ça.
Genre elle était vêtue quoi.
Pareil, elle a été quand même accusée de taper sur un officier. Et puis en dehors de la scène, elle était aussi vraie de vraie. Il y avait un paparazzi qui essayait de la photographier pendant son jogging. Donc, entre autres, elle était sportive.
En bikini, jogging ou...
Elle était en jogging. Là. Mais le paparazzi essayait de la photographier, elle s'en est aperçue, elle l'a attrapée... Elle l'a ligoté à un arbre et puis elle s'est barrée.
Donc, un sacré personnage.
Ouais. Bon, alors il fallait pas être un ampli sur scène ou parce qu'elle t'exposait ça. Ce qui est sympa aussi de remarquer, c'est que elle avait des très bonnes relations, notamment là en 82, elle a fait un duo avec Lemmy Kilmister des Motorhead. Et bah, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Et c'est là où la fusion entre le style de Lemmy et son explosion personnelle, ça donne quelque chose de tonitruant, pour faire un clin d'œil au vent passe. Bon, d'accord, c'est pas terrible. Mais bon, en 85, donc, elle a été nommée aux Grammy Awards comme best vocale féminine. Bon, cette année-là, c'est Tina Turner qui a gagné. Bon, c'est, pas de bol, il y avait Tina Turner. Pour terminer sur sa prestation discographique, elle a quand même été drivée par Gene Simmons, le guitariste chanteur des Kiss. Et donc, ils ont fait son album le plus célèbre qui s'appelle Woo, et qui a été donc produit par ce gars des Kiss, chez qui ils avaient fait la première partie. Et puis, bah, ça se termine mal pour elle, puisque ça se termine comme elle a eu envie, puisqu'elle se suicide à 48 ans. Elle laisse un tout petit mot que je vais vous lire. « On ne décide pas à la légère de mettre un terme à sa vie. je ne crois pas que quelqu'un choisisse de quitter la vie avant d'y avoir longuement réfléchi. De toute façon, je suis convaincu que c'est un des droits les plus fondamentaux d'une société libre de pouvoir le faire. Pour moi, quasiment rien dans le monde ne fait sens à part les sensations de ce que je suis en train de faire qui résonnent haut et fort dans un espace intérieur où il n'y a rien de calme. Donc, après cette petite lettre, il est temps d'écouter ce que donnait Madame Williams sur scène avec son titre « Ain't None of Your Business ». C'était Wendy O. Williams avec son groupe. D'ailleurs, c'est étrange parce que souvent dans les discographies, c'est représenté comme étant son disque solo. Et elle dit non, c'était avec mon groupe. Donc voilà, plasmatique, Wendy O. Williams.
Dans l'épisode 6 là, que vous êtes en train d'écouter.
Spécial punk.
Spécial punk, exactement. Et là, on va laisser la place à un punk aussi, Blaisois.
Qui a fait, effectivement.
Non, je ne sais pas s'il apprécierait ce...
Bien sûr, parce que Ben est un des rares à avoir assisté au festival de Mont-Marsan, festival punk, le premier festival européen qui a eu lieu en 76-77. Lui, il a assisté à celui de 77. Un jour, peut-être, nous ferons une émission sur le festival punk de Mont-Marsan.
Ancien combattant.
Ouais. Et c'est passé tellement de choses avec plein de groupes dont on vient de parler à l'instant. Donc c'est le moment de laisser la parole à Ben avec sa petite chronique. Et...
Toujours là les filles, toujours en compagnie de Peggy, donc la petite mascotte de l'émission, et puis la mascotte de ma voisine, c'est son animal de compagnie hein, qui reste avec nous à tout ce temps. Donc une histoire, c'est Wacken Do It. On peut le faire. Eh bien, Wacken Do It, c'était cette femme que nous connaissons tous, cette femme au visage conquérant, fichu à poids dans les cheveux, relevant sa manche en présentant un royal point levé. On la voit partout. Cette image est l'un des symboles du féminisme. Et pourtant, il semble qu'avec le temps, on ait complètement oublié d'où elle sortait. Pour cela, il faut revenir 7 décennies en arrière et faire un pas de côté vers l'ouest. 1942, aux États-Unis, Franklin Roosevelt lance un programme d'économie de guerre et pour assurer la production, se rend assez vite compte qu'il a besoin de sa moitié de population coincée à la maison. J'ai nommé les femmes. Pour ce faire, il lance des campagnes d'affichage massives pour convaincre les femmes de bosser à l'usine et surtout convaincre leurs maris de les laisser faire. La même année, une usine commande une série d'affiches dont la plus populaire est celle que nous avons tous en tête, bien qu'elle n'ait été exposée que quelques jours. Contrairement au nom qui lui est souvent prêté, depuis que cette figure est entrée dans les marronniers de la culture pop, cette dame ne s'appelle pas Rosie the Revolter. Rosie, en fait, a été évoquée l'année suivante dans une chanson patriotique ultra populaire. C'était une femme qui travaillait à l'usine pendant que son bien-aimé était au front. C'est alors l'illustrateur Norman Rockwell qui l'a fait entrer dans l'histoire en couverture du journal Saturday Evening Post. C'est donc une image au départ très paternaliste qui est aujourd'hui érigée comme symbole du féminisme. Pour le meilleur ou pour le pire, ça, je vous en laisse juge. Convenons quand même qu'une chose, le fait qu'on n'ait pas trouvé en 1970 de figure plus emblématique que l'Empereur Wertmann, féminin est un brin désespérant. Toujours là les filles, toujours en compagnie de Peggy. Alors là Peggy elle est contente parce qu'on va parler d'elle un petit peu plus. Donc on va parler de la beauté. Et là là Peggy quand on parle de la beauté, elle est proche du micro. Comment parler des femmes sans parler de la beauté? Ben c'est pas possible, donc obligé de parler de la beauté. La beauté, qu'est-ce que la beauté? Alors sachant que lorsqu'on demande aux femmes dans quel domaine la beauté compte, elles sont 91% à citer le travail, 98% les relations amoureuses, 87% la rue, 78% les amis, soit absolument partout. Aucune n'a cité les toilettes, lieu de répit s'il en est. Sachant que 83% d'entre elles surveillent leur alimentation, que 67% s'inquiètent de leur apparence physique au moins une fois par semaine, contre 23% pour les hommes, et qu'il s'agit d'une source d'angoisse pour 60% d'entre elles, sachant que la course à la fraîcheur n'est pas ressentie comme une contrainte pour la majorité, 80% des femmes, et que de se faire belle est un plaisir pour 94% d'entre elles, mais que pour 96% déclarent avoir détesté leur corps au moins une fois, et qu'elles sont 70% à vouloir en changer une partie, sachant enfin qu'un sondage révèle que 15% seraient prêtes à abandonner 20 points de quotient intellectuel pour avoir le corps refait du mannequin brésilien Gisele Bündchen, peut-on oser parler de la tyrannie de la beauté?
Gloria, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous jusqu'au 12 mars chaque jour sur StudioZef91.1 ou à podcaster sur StudioZef.fr. À très bientôt.